c'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain Mekena.
Je me dois de vous souhaiter une bonne semaine de relâche pour ceux qui en profitent. J'y pense parce que mon collègue Alain... Salut Alain.
Bonjour Benoît.
Mon collègue Alain profite de la relâche. Il est là, mais il n'est pas là avec moi. Il n'est pas en studio. Il s'est pris un petit gîte avec la famille pour profiter de la semaine. Tu fais bien, mon cher. Moi, j'écoute, je Merci. Débarque littéralement de l'avion. On a été essayer le nouveau Lexus RZ450E. En fait, qui est la version Lexus du Toyota BZ4X. Bon, évidemment, plus luxueux. On peut parler des prix parce que ça a déjà été annoncé. C'est 65 000, 73 000 et 80 000. Il y aura trois versions au Canada. Il y en a juste deux aux États-Unis. Ils n'ont pas de version de base comme on a ici. Et là, chose que j'avais entendue et que je ne savais pas, en fait, que je n'avais pas entendue, on va remonter le prix pour l'accès aux subventions à 65 000 $. Parce que quand on a parlé à Martin Gilbert, qui est le grand patron de Lexus au Canada, on lui a dit « Ah ben là, tu n'auras pas accès aux subventions. » Il dit « Oui, oui. » Ben, j'ai dit « Ben non, c'est 60. » Il dit « Non, c'est 65. » Puis c'est drôle parce que...
Ça a été relevé, c'est vrai.
Ça a été relevé, puis je n'avais même pas entendu parler. D'habitude, on est assez au courant de ces choses-là. Donc, il y a un embargo le 13 mars, donc je réserve mes impressions pour le 13 mars. Mais aujourd'hui, à l'émission, comme je l'avais promis la semaine dernière, on va parler par contre de Polestar. Là, c'était le 28 février, l'embargo. Là, on est correct. On peut en parler. Alors, on va parler de ça dans la deuxième segment d'émission.
Conduite sur glace.
Conduite sur glace. Et c'était une expérience intéressante. Puis il y avait le Polestar Arctic Circle, là, qui est l'espèce de version qu'on a fait. Mieux adapté, tout ça qu'on n'a pas conduit, qu'on a essayé avec un pilote, parce qu'il y avait des restrictions au niveau du circuit à Mécaglisse, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de froid cet hiver et la couverture de glace était plutôt mince. Donc, les gens de Mécaglisse ne voulaient pas que les gens de Polestar mettent des clous plus agressifs sur le véhicule parce que évidemment ça ronge la glace. Puis, il y a un programme Audi la semaine prochaine. Il y a encore des programmes Porsche. Il y a encore plusieurs programmes. Et ils ne voulaient pas trop éroder ce qu'il y avait de glace sur le parcours. Donc, on a eu vraiment là, des cramponnettes, là, littéralement. Puis, certains n'étaient pas habitués. On avait quelques influenceurs sur le programme dont la tâche au quotidien n'est pas de conduire des voitures. On a préféré mettre un instructeur derrière pour l'essai de ce véhicule-là. Mais je vais vous en reparler tantôt. En essai routier, tu nous proposes quoi cette semaine, mon cher Alain?
Bien, je revisite un véhicule que tu as conduit il y a quelques semaines. C'est un Jaguar F-Pace SVR qui, longue histoire courte, en fait, est le dernier de sa race. Hein. C'est le dernier modèle de moteur V8.
On est dans Jaguar, les derniers des Mohicans, là, parce que des V8 compressés à 500 chevaux, là, ça n'aura pas de vie très longue.
Bientôt.
Non,
voilà,
effectivement.
Exact. Donc, j'ai vécu une semaine en Jaguar qui était quand même assez intéressante. Et je vais en parler en fin d'émission.
Bon, ben parfait. Moi, je vais vous parler du Kia GT, EV6 GT, qui est la version là à 576 chevaux. J'ai eu l'occasion de conduire ça. En fait, je le recommence demain parce que là, évidemment, cette semaine, je n'étais pas là, mais je l'ai encore pour le week-end. Mais j'ai eu le temps brièvement de faire le tour. On va regarder ça et on va en parler aussi. Tiens, les nouvelles, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Parce que là, c'était une journée importante pour Tesla. Là. C'était le Investors Day, je pense, là, cette semaine.
Exact. C'était mercredi, le 1er mars, une journée fort attendue, la journée des investisseurs chez Tesla. Et on se voulait rassurant chez Tesla parce que, il y avait beaucoup d'anticipation pour cet événement-là. C'est un événement annuel là, qui permet de faire le point sur comment le constructeur envisage son avenir en particulier, mais l'avenir aussi général de l'électrification du transport en général. pouvez le soupçonner, là, comme chaque fois, le PDG et aussi très coloré personnage Elon Musk était sur place. C'est lui qui était sur scène, présentait pas mal tout ce qui a été dévoilé.
Okay.
On espère avoir des nouvelles sur les nouveaux futurs produits de Tesla. On pense plus particulièrement, en tout cas les analystes espéraient en savoir plus sur, je ne sais pas si on peut l'appeler le modèle 2, mais l'éventuelle voiture électrique meilleur marché que la modèle 3.
C'est,
là, dans
en
le
fait,
détail.
C'est le nom qu'on lui a donné, ouais. Le modèle 2, mais Elon Musk n'a jamais confirmé que ça se rappellerait le modèle 2, sauf qu'il y a longtemps... Non, il a longtemps laissé planer que ça serait un véhicule à 25 000 $ US.
Exactement.
Et là, on s'attend à ce que, ah, il va y avoir une usine au Mexique. Est-ce que ça sera un endroit pour construire un véhicule Tesla à bas prix? Je lance la question comme ça, là.
Exactement, c'est une question à laquelle il n'y a pas encore officiellement de réponse, mais ça va dans le sens de ce que tu dis, effectivement. Pour référence, une voiture électrique à 25 000 $ américains, ce serait une avancée, parce que le Model 3 a été présenté comme la voiture électrique à 35 000 $ US à l'époque, au début.
Exact.
Évidemment, elle se vend pas mal plus que ça.
Oui, moi, je sais pas toi, mais j'ai pas vu de Tesla 3 à 35 000 $ à ce jour-là, moi.
J'ai pas vu beaucoup de moi non plus, je peux dire ça. Écoute, les gens qui étaient sur place là au Texas ont pu voir une très subtile mention visuelle de deux véhicules plus mystérieux qu'autre chose et qui sont à venir. Il y avait une voiture plus petite que la Model 3 dans les visuels de présentation d'ouverture de la conférence. Donc, c'était pas une grosse présentation détaillée de futurs produits, mais probablement que ça reste dans les plans. On a peut-être juste pas grand-chose à annoncer en ce moment. Comme tu le dis, il y a une usine qui s'en vient. Il y avait aussi une image de camionnette qui n'est pas le Cybertruck. Donc, peut-être qu'il y a d'autres choses de ce côté-là aussi, parce qu'il pourrait avoir une version allégée, peut-être plus moins audacieuse de la camionnette qui pourrait bien fonctionner. Mais aucun plan pour élargir la gamme n'a été mentionné durant la journée des investisseurs. En fait, Tesla a surtout voulu rassurer à peu près tout le monde sur l'évolution du marché des véhicules électriques. Il y a l'espèce de, je sais plus comment, le master plan qui Elon Musk appelle ça. Il était rendu à la troisième version de ce plan. C'est pas un plan de conquête, mais c'est un plan vraiment de mondial où comment on pourrait, en fait, assurer la transition vers des énergies
Elon Musk voit l'échelle de la planète. Là, on a qu'à regarder. Là, il est en Allemagne, il est en Chine, il est aux États-Unis, là, il va qu'au Mexique.
Exact.
Puis, tu sais, lui a été chercher des fournisseurs à travers le monde. Entre autres pour le nickel, pour le lithium, tu sais, c'est... Non, il est... En fait, je me demande comment il a le temps de préparer une réunion, là.
Je suis pas sûr qu'il dort la nuit parce qu'il en fait beaucoup. Dans son master plan, il parle d'un investissement nécessaire de 10 000 milliards de dollars américains, 10 billions globalement,
okay.
Pour finir la transition mondiale vers des énergies propres et se défaire un peu des hydrocarbures. Ce que Musk dit, c'est que lui, il est très optimiste. Hein. Il pense que ça va arriver, ça va avoir lieu en dedans de la fin, d'ici à ce que, en tout cas, dans une génération, là, pour nous en ce moment, on va risquer de voir ça. Donc, avant peut-être 2050, même si on était un peu chanceux. Musk a aussi répondu aux critiques, on en a parlé il y a une couple de semaines, là, faites par un des dirigeants de Toyota là, qui pense qu'il n'y a pas assez de ressources sur Terre pour électrifier tout le transport. Ce que Elon Musk dit, c'est que, en tout cas, ce qu'il a rappelé pour lui, c'est qu'une voiture électrique n'a besoin que de 20% de l'énergie d'une voiture à moteur thermique pour accomplir les mêmes tâches.
Ouais.
Il calcule que 30% du nickel mondial actuellement connu, là, suffirait pour être tout électrifié, y compris les avions et les bateaux, c'est quand même pas rien.
Ah oui, quand même. Ben.
Tout le reste pourrait être éventuellement, tu sais, les matériaux plus critiques pourraient être remplacés en grande partie par du fer, une ressource qui, on s'entend, ne manque pas vraiment.
Non, le fer, ça, de ce côté-là, je pense que ça va. Là. Il y en a encore pas mal. Puis, ben, tu sais, il faut le dire aussi, on change, on évolue, on développe, on trouve des choses sur une base quasi... J'ose pas dire mensuel, mais presque. Puis on va probablement avoir des piles qui vont nécessiter moins de métaux rares, moins d'énergie, des matériaux qui sont plus rapidement disponibles à moindre prix. Il y a pas une équipe qui travaille là-dessus. Là, il y a 2775 équipes qui travaillent là-dessus en ce moment.
Ah ouais, il y a beaucoup de monde partout, effectivement.
Oui. Tu sais, on parle là. Moi, je parle à des gens qui sont dans l'électrique. Puis les gens disent, oui, il y a 7, 8, 10, 12 compagnies là, dans différents domaines qui travaillent toutes là-dessus. Donc, ce qu'on a en ce moment, ça sera pas la réalité dans 10 ans, là, même peut-être pas dans 5 ans seulement. Alors,
si, S'il y a 40 ans, on avait imaginé l'industrie du téléphone cellulaire à partir des téléphones vendus à l'époque, c'est sûr qu'en ce moment, ce ne serait pas soutenable non plus.
Non, non.
Si donc, tu on peut faire le même parallèle.
Je pense que le téléphone cellulaire.
L'automobile va se raffiner.
Ben oui. Ouais. Le téléphone cellulaire moyen aujourd'hui a plus de mémoire que à peu près toutes les missions Apollo mises ensemble. Là,
alors, exactement.
Ça donne une idée où on est rendu. Autre nouvelle que tu avais aussi, parce qu'on reste dans l'électrique, là, le 15 mars prochain, donc c'est pas longtemps, là, dans même pas deux semaines, Kia va nous présenter une... Peux-tu l'appeler une fourgonnette électrique? On peut-tu aller là ou c'est une espèce de VUS à sa place? Là?
Ben, je suis un peu tenté d'y aller, moi aussi, mais c'est plus le format d'un VUS. Là. Les images qui ont été présentées par Kia là, cette semaine, c'est deux vidéos d'un véhicule qui ressemble beaucoup au concept EV9 qu'on a vu au Salon de Los Angeles en 2021. C'est un véhicule très carré. Il s'apparente évidemment plus visuellement à un VUS, mais on le sait, hein, parce que même la minivan, c'est la Carnaval, je pense, c'est Kia qui a plus ça d'un VUS que d'une fourgonnette.
Oh, oui, on l'a.
Clairement, au point de vue design, c'est important de ne pas avoir l'air d'une minivan, même si les dimensions sont assez intéressantes.
En fait, je pense que c'est le marché qu'on veut... Ouais, c'est ça, c'est probablement le marché qu'on veut toucher sans le nommer.
Exactement. En termes de dimension, le EV9 va être un VUS, ça va être un monospace, tout ça comme ça, pleine grandeur, avec trois rangées de sièges, qui devrait présenter sensiblement le même genre de format que le Telluride, justement.
OK.
Le plus gros VUS de Kia, là. Sauf que comme il y a moins de pièces mécaniques sous la carrosserie, évidemment, l'habitacle du EV9 devrait être plus spacieux que
ça
celui
va, ouais, ça va, c'est ça. Forcément, ça libère de l'espace.
C'est quelque chose comme 5 cm de différence en termes de longueur, mais beaucoup plus d'espace intérieur. Le EV9, évidemment, parce que c'est ça la tendance, il ne va pas manquer de muscles. Hein. Il va être assemblé à partir de la même plateforme, le EGMP, que tous les autres véhicules électriques du groupe Hyundai. Cette plateforme-là a droit à un système électrique de 800 volts assez moderne qui devrait afficher une puissance d'au moins 576 chevaux. Ça, c'est la puissance de cette configuration-là sous la carrosserie du EV6 GT.
C'est exactement le même nombre de chevaux que le EV6 GT que j'ai essayé. Ben oui, c'est bizarre.
Exactement. Moi, je trouve que, personnellement, mon opinion, c'est que c'est beaucoup de chevaux. On parle aussi d'un couple de 546 livres-pieds. Là, les chiffres sont assez démesurés. Probablement qu'on pourrait faire aussi bien avec moitié moins, mais bon, peu importe. Le EV9 devrait être offert à au moins une version dont l'autonomie devrait dépasser les 480 km par charge. Ça m'apparaît nécessaire pour soit un gros VUS familial ou une fourgonnette, là, peu importe comment on voit ça.
Ouais.
Le prix de détail de son côté, bon, n'a pas été annoncé, mais selon les rumeurs dans les médias spécialisés, il devrait se situer quelque part autour de 50 000 $ américains, ce qui équivaut, quand on fait juste change pour change, à 68 000 $ canadiens.
Ouais, ça fait.
Ça paraît beaucoup.
Ouais, ça paraît beaucoup, mais c'est à peu près dans la bonne moyenne quand on regarde le format du véhicule, là, puis la compétition, parce qu'évidemment, il faut bien le savoir, là, les compagnies font beaucoup d'études avant d'amener un véhicule sur le marché et savent exactement où se situe la concurrence et vont, en général, établir un prix qui va être concurrentiel, effectivement.
Ben oui, puis on peut imaginer aussi que Kia, parce qu'ils ont fait le même coup avec le V6, ils se sont conformés à la norme pour l'aide gouvernementale. Donc, peut-être qu'ici, avec l'ajustement à 65 000 $ ça va aussi amener un prix qui va être plus près de
moi,
ça.
Moi, je te gage qu'il va être 64 990.
Exactement.
Il y a des grosses chances parce qu'en ajustant à 65, on aime mieux perdre un peu en sachant qu'avec la subvention, on va en vendre plus que de passer outre et de dire, bon, c'est pas grave. Je pense
qu'on fait le calcul, 65 000 $ moins l'aide gouvernementale, ça revient pas tellement loin du prix d'une Toyota Sienna ou d'un Chrysler Pacifica, hein, les deux véhicules.
Oui, ouais, bien équipés, là, parce que c'est 55, 6, 7, là, dans ces eaux-là, quand on équipe bien ces modèles-là. Là. Fait que c'est pas,
donc, y a ça pas devient intéressant. Évidemment, ça va être à suivre parce que, bon, tu l'as dit, le dévoilement officiel va se faire le 15 mars prochain. Cela dit, le EV9 va entrer rapidement en production là, parce que la mise en marché, c'est un modèle millésimé 2024. Donc, on pourrait peut-être
ça s'en vient. Là, on n'aura pas ça dans deux ans. Là. C'est d'ici l'été,
exactement.
Probablement. OK.
C'est une parenthèse d'ailleurs, mais Kia va lancer deux nouveaux véhicules électriques 100% nouveaux par année d'ici 2027. Donc, il y a vraiment un virage qui s'en vient de ce côté-là et ça, c'en est un bel exemple.
Bon, ben, on va regarder ça. Moi, de mon côté, cette semaine, je ne voulais pas passer sous silence la société québécoise Uniselec, qui est le plus gros fournisseur canadien de produits de finition automobile, de peinture industrielle, a été vendu à LKQ. LKQ, c'est une corporation américaine, même s'ils sont basés au Québec. Là, les gens connaissent bien, là, ceux qui sont dans les pièces, entre autres, connaissent le nom de LKQ, mais c'est basé à Chicago. Ils ont racheté pour 2,8 milliards de dollars. Surtout pour la division de peinture et de finition automobile là, qui intéressait LKQ du côté de chez Uniselect. Alors, malheureusement, c'est une autre compagnie québécoise là, qui, pouf, comme ça, là, sans faire de bruit, nous quitte. La division qui intéressait, ça s'appelle Finish Master d'Uniselect, qui fournit des produits de peinture et de finition aux concessionnaires automobiles. Alors là, ben c'est des LKQ qui a récupéré ça et qui va probablement reprendre les contrats. On a fait une offre qui, évidemment, était difficile à refuser dans les circonstances. Alors, je voulais comme ça le souligner en terminant notre premier bloc. Et je trouve ça malheureux parce que, bon, évidemment, c'est une compagnie privée. Là, on n'y peut pas grand-chose. Sauf que, bon, dans les temps souvent un peu plus difficiles, là, on se laisse un peu tenter. Puis là, ben c'est parti de ce côté-là. Alors voilà.
On en gagne, on en perd.
Je voulais le souligner. On va prendre une pause quelques minutes et on va revenir avec notre, j'appelle ça mon segment Polestar. On va revenir sur les essais qu'on a eus du côté de Mécaglisse la semaine dernière.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors là, je vous avais promis de parler de Polestar. Ben voilà, on peut le faire. On avait, en fait, la semaine dernière, on avait reçu une invitation. C'était un événement nord-américain, appelons ça comme ça, parce que t'as pas à proprement parler un lancement, parce qu'on connaissait le modèle. C'est la Polestar 2, celle qui a évidemment 4 roues motrices. Je dis évidemment pourquoi, mais parce que c'est un événement sur la glace. 2 roues motrices sur la glace, ça prend des talents de pilote hors normes pour réussir à tenir un véhicule en place. Alors, on avait vraiment un modèle qui était... en fait, c'est le modèle qui a la batterie, la batterie 78 kilowattheure. Exactement. Et on était du côté du circuit de Mécaglisse. Donc, il y avait quelques journalistes québécois. En fait, 2 Québécois, un journaliste de l'Ontario et des journalistes américains. Journalistes américains, eux, ne sont pas habitués de conduire. Il est arrivé un gars de la Caroline du Nord en petit soulier de crocodile avec un petit manteau pas vraiment très chaud. Il faisait moins 22 le matin la semaine dernière. Donc, et tous les gens qui sont déjà allés entre Notre-Dame-de-la-Merci chez Mécaglisse, le vent vient de loin parce qu'il n'y a pas grand-chose pour l'arrêter.
C'est très exposé aux éléments.
Oui. Alors, moins 22 au vent, là, faut s'habiller. Alors, cela dit, ce qu'on avait fait, c'est que c'est les circuits qu'on retrouve habituellement du côté de chez Mécaglisse. Le système fonctionne pas mal toujours de la même façon. Moi, j'ai fait ces programmes-là avec Porsche, je l'ai fait avec Audi, je l'ai fait avec Nissan. Et là, ben, on le faisait avec Polestar. Ce qui était particulier, et Jean-François Dumoulin et son frère Louis-Philippe, Steve Wester, des instructeurs là, qui font ça depuis, mon Dieu, presque une trentaine d'années, eux, c'était la première fois qu'ils avaient un programme sur glace avec des véhicules uniquement électriques. Parce qu'on a eu des mixtes, il y avait eu des véhicules du côté d'Audi l'an dernier, entre autres, il y avait un e-tron GT, mais avec un RS6, donc un à essence, un à gaz, un à électrique. Et là, on avait uniquement des Polestar. Et ce qui était particulier, c'est qu'on avait, je l'ai dit tantôt en entrée de jeu, c'est qu'on avait des véhicules avec des petits crampons. En fait, c'était des crampons qu'on peut acheter là chez n'importe quel marchand de pneus. Généralement, du côté de Porsche, entre autres, et même chez Audi, on prend des crampons un peu plus agressifs parce que quand on fait de la plus haute vitesse sur glace, ça prend de l'adhérence parce qu'on le sait, là, de la glace. La glace, il n'y a rien à faire avec la glace. Tu pars. Alors, si tu as des crampons, ben là, tu te donnes une chance de pouvoir un peu travailler puis mieux connaître le véhicule. Donc, en fait, l'exercice, c'était de voir comment se comportait un véhicule électrique sur la glace. Toi, je sais pas, Alain, as-tu eu l'occasion de rouler des véhicules électriques dans des conditions plus, disons, plus hivernales, plus difficiles, ou t'as été capable d'essayer, par exemple, si t'as un 4 roues motrices, de voir un peu la différence?
Ben, où je suis en ce moment, là, je suis dans les cantons de l'Est, je suis venu en Genesis GV60, donc j'ai pu tester ce qui venait de neiger il y a 2 jours. Mais j'avais dans des conditions contrôlées, donc j'ai jamais pris le temps vraiment de forcer un dérapage. Ce qui m'intrigue dans cette chose-là, c'est d'ailleurs, j'ai un peu déçu d'avoir raté l'événement Polestar parce que je me demandais tu sais, il y a comme une, il y a plus que les yeux et les oreilles quand on conduit une voiture puis qu'on essaie de faire du dérapage contrôlé ou de faire de la conduite plus avancée. Il y a toute la sensation du mouvement des charges, tu sais, des forces en présence. Ouais. Tout ça, c'est très vectoriel à la limite, tout ça. Puis j'ai toujours l'impression que la façon dont le poids est réparti dans une voiture électrique, dont les composants sont situés, on a l'impression que le véhicule, si on perd le contrôle, reprendre le contrôle va demander d'autres genres de une autre genre d'expertise complètement différente de voiture à essence. Je sais pas si c'est ça que tu as trouvé en conduisant la Polestar.
Moi, ce que j'ai, en fait, j'ai beaucoup parlé avec Jean-François Dumoulin et contrairement à des véhicules à essence ou dans des conditions contrôlées, parce qu'on fait rarement ça sur la route, mais on peut enlever tout l'électronique l'hiver. Donc, on le fait avec des véhicules à essence à maintes reprises, tant chez Porsche, chez Nissan que chez Audi. Et là, la beauté, c'est quand on arrive à l'équilibre, par exemple, on fait des 8, là, littéralement, on tourne en rond, et quand on arrive exactement à la bonne vitesse, on fait simplement garder le pied au même endroit sur l'accélérateur, et là, on tourne en rond. Puis ça se fait, ben non, ça se fait
c'est
pas tout seul.
C'est extrêmement plaisant à faire.
C'est difficile, mais c'est quand tu l'attrapes, quand tu as juste la bonne dose, c'est absolument hilarant. On ne peut pas débarquer l'électronique sur un véhicule électrique. Donc, il y a un mode sport sur le Polestar qui te donne plus de latitude, qui va te permettre d'amorcer un dérapage, mais il faut... faut être extrêmement délicat parce que l'instant où on redonne un peu de coup d'accélérateur, pouf, là, la sécurité embarque et c'est fini. Et on peut pas, on a essayé, là, ils disent, ça se fait pas. Donc ça, c'est un point qui est déjà différent au départ. Et évidemment, comme c'est un véhicule électrique, il n'y a pas de lien mécanique entre les roues et le volant. Un 4 roues motrices, mécanique, un moteur à essence.
C'est pas un rouage intégral mécanique. Ouais.
C'est pas un rouage intégral mécanique, c'est électronique. Donc, dans la conduite, il y a une espèce de demi-seconde de délai entre le moment où tu accélères, que l'impulsion se rend aux roues et qu'il y a une réaction. Donc, il faut toujours un peu anticiper. L'avantage qu'il y a, et moi, c'est drôle, j'ai cru au départ que ce serait un inconvénient, c'est le poids. Parce que, contrairement à un véhicule à essence où ton poids est tout en avant, parce que ton moteur est là, bon, on répartit un peu, on a des moteurs, des véhicules bien conçus qui vont avoir une répartition de poids qui peut être de 55-45, du 50-50 pour certains moteurs centrales. Mais le poids d'un véhicule électrique, c'est tout le dessous du véhicule. Donc, le poids est bien réparti. Et de cette façon-là, on arrive là à pouvoir assez bien maîtriser le véhicule. Évidemment, il ne faut pas oublier que c'est beaucoup plus pesant qu'un véhicule à essence. Parce que quand on fait une manœuvre, qu'on freine ou qu'on réaccélère, il faut toujours tenir compte du poids. Fait que j'ai trouvé ça intéressant pour ça. Puis, on avait amené du côté de Polestar un modèle qu'on appelle le Arctic Circle. En fait, c'est un concept, c'est pas un véhicule qui est à vendre. C'est basé sur un Polestar 2, là. Sauf qu'on on a mis des roues de rallye un petit peu plus agressives, mais comme je le disais, pas des roues de rallye avec les crampons de rallye, parce que ça, les gens de Mécaglisse ont dit non, on n'a pas assez de glace pour ça. Alors, c'était des roues de rallye avec littéralement des crampons là, que vous pouvez prendre, des crampons réguliers là, qu'on peut acheter sur n'importe quel pneu. C'est un véhicule dont on a un petit peu augmenté la puissance. Là, on parle de 469 chevaux, 502 livres-pieds de couple. Donc, c'est un véhicule qui travaille extrêmement bien, qui est plus puissant, surtout qui est plus rapide, parce que le Polestar qu'on avait là, régulier avait 408 chevaux et 487 livres-pieds de couple. Donc, on a augmenté. Bon, pas de façon extraordinaire, parce qu'on part des mêmes bases. Là. C'est le même moteur de 78 kWh qui est là, donc c'est sûr qu'on ne peut pas doubler. Mais on a aussi installé, par exemple, une suspension Hollins, là, les fameuses suspensions sport de Volvo. Donc, on l'a équipé comme un véhicule sport pour lui donner un peu plus de chien. Bon, on n'a pas pu les conduire, je l'expliquais, on a été très prudents parce que beaucoup de gens n'étaient pas habitués de conduire sur la glace. et la glace ne pardonne pas. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression qu'on va avoir un peu d'adhérence, on va dire « Ah, oh, je pense que je peux arriver un petit peu plus vite ». Et les instructeurs, c'était drôle parce que ils disaient « Ah, regarde, lui, il va frapper le banc de neige là ». Puis pouf, 3 secondes après, il est exactement où il est. Heureusement, la neige où on... En tout cas, si les gens perdaient pied derrière le volant ou perdaient la maîtrise, on atterrissait toujours dans des endroits mous. Là. Fait qu'on n'a pas abîmé de voiture, mais c'est une bonne façon d'apprendre. Et on veut peut-être du côté de Polestar, parce que rappelle-toi, Alain, Polestar, c'était la division avant d'être une marque propre. C'était les modèles sport de Volvo. Donc, exact. Polestar vise à peut-être à continuer cette tradition qu'on avait commencée du côté de chez Volvo. Et le Arctic Circle, ben, c'est un peu ça. C'est qu'on a mis toutes les composantes les plus sportives qu'on a et sur laquelle on peut mettre la main du côté de chez Polestar pour justement équiper le véhicule. Donc, ça donne quelque chose d'intéressant, évidemment. Il n'est pas à vendre. C'est un concept, mais on voulait le présenter, on voulait regarder là. Et on constatait, avec tous les ajouts qu'on avait dans ce modèle-là, au niveau de la suspension, du freinage, des pneus, qu'on avait un équilibre qui ressemblait beaucoup à un véhicule à essence. Je pense qu'on est un peu à la maternelle au niveau de l'apprentissage, de comment on arrive. Moi, je prends toujours l'exemple de la Formule 1. Regarde où la Formule 1 était il n'y a pas 7-8 ans. On avait deux véhicules parce que les véhicules n'arrivaient pas à finir une course. On changeait de véhicule au milieu de la course. On avait un design de véhicule qui n'a pratiquement plus rien à voir avec ce qu'on a cette année. On a explosé au niveau des technologies de ce qu'on a dans le véhicule. Et je pense qu'on explore un petit peu la même chose du côté des compagnies de véhicules électriques. On essaye de voir comment on peut amener le plaisir de conduire pour ceux qui en avaient dans les véhicules à essence et qui l'appréciaient dans des véhicules électriques. Et je pense que ça, c'est une espèce de mesure étalon du côté de Polestar pour aller, pour aller dans ce sens-là. Alors,
j'allais dire, écoute, j'ai l'impression qu'on va voir éventuellement des véhicules électriques où l'électronique va être moins... Ça va être plus débridé, en fait.
Ben,
parce
c'est
que
ça.
Déjà, on le voit dans le vélo, hein, les amateurs de fatbike, entre autres, qui pour un fatbike électrique, c'est un moteur roue, c'est un moteur dans la jambe. C'est la même chose que bien des voitures.
Donc, exact.
C'est dans le principe. Et s'il n'y a pas de contrôle électronique, tu dérapes tant que tu veux, tout ça, mais ça reste un vélo, donc c'est contrôlable. Mais on peut imaginer que s'il y a une certaine volonté de se démarquer point de vue performance, il va y avoir des véhicules qui vont être conçus électriques avec plus de latitude sur la conduite, ou en tout cas le dérapage et ces choses-là.
Ben, c'est ça. Puis tu sais, je pense que ce véhicule-là est un peu laboratoire dans ce sens-là, parce qu'on est parti carrément d'un véhicule qui existe, là, le Polestar 2. Puis on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut amener de plus à un concept qu'on connaît pour en faire un véhicule plus plaisant, plus sportif, mais tout en restant évidemment un véhicule électrique. Donc, je pense qu'on va explorer. Puis bon, le fait de l'avoir sur la glace, où oui, il y a la contrainte de dire c'est glissant, mais j'ai quand même trouvé ça plaisant de voir dans des situations contrôlées. Puis c'est ça qui est le fun, parce qu'on connaît les limites, puis on sait que bon, même si à quelques endroits, on perd des pieds un peu, il n'y avait pas de dommages qui allaient être faits. Donc, de ce côté-là, je pense que ça a été le clou de la journée là, de faire. Parce que c'est arrivé à la toute fin de la journée où on a essayé ce véhicule-là. Le reste de la journée, on a fait des exercices sur une piste. On a fait les fameux cercles dont je te parlais, des exercices de slalom. Puis c'est le fun en slalom parce que tu dis, OK, là, je suis à 35. Parce que là, imaginez-vous pas qu'on va vite. Là. Quand tu vas 35... J'ai monté à 42,3 km/h là pour prendre un cône, puis j'ai pas été plus vite que ça de la journée là. Tu peux pas rouler 60 puis dire on va tourner là, ça tournera jamais. tu vas accrocher un banc de neige, puis il y avait même deux endroits où la glace, parce que quand il y a plusieurs personnes qui ont passé, tu sais, on s'est fait comme une petite trace, il y a un chemin. Il y avait deux endroits là, si tu passais à plus que 25, tu passais pas le deuxième cône, là tu te glissais puis tu arrivais dedans. Alors donc ça c'était, puis je trouve ça bon parce que ça te force ça nous force à s'améliorer, ça nous force à faire attention quand on conduit sur la glace. Et ça développe des bons réflexes. Alors, ça a été intéressant. Voilà. Puis je prépare un article. Là. J'étais en Europe cette semaine. Là, je vais le mettre sur annuelauto.ca là, dans pas très long. Mais je suis en train de travailler là-dessus. Probablement en fin de semaine, là, je vais avoir le temps de m'asseoir et de cogiter tout ça. Alors, on prend une deuxième pause, pas très longtemps. Puis après ça, on va revenir avec nos essais routiers.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Tiens, avant nos essais routiers, on va vous dire comment nous écouter, hein, parce qu'on peut le faire à la radio, évidemment, au 98.5. On est là la plupart du temps le dimanche à 18h quand il n'y a pas de hockey. Quand il y a du hockey, ben il y a du hockey. On n'est pas encore plus populaire que les Canadiens. Ça arrivera pas non plus.
On travaille là-dessus.
On travaille là-dessus, mais bon, j'ai des visées plus modestes que ça. On peut aussi nous écouter sur le 98.5 dans la section balado. On est là aussi. Ou vos plateformes préférées de balado, on est partout. Abonnez-vous, on le dit souvent, c'est la façon la plus facile. Vous allez aussi sur annuelauto.ca. On fait une mise à jour chaque semaine de toutes les émissions. Et c'est la façon intelligente de le faire. Tiens, nos amis de Écolo Auto, la semaine dernière, c'est de ma faute, c'est moi qui ai oublié la chronique. On me l'avait envoyé, alors je me reprends. Cette semaine, on va parler, en fait, les gens d'Écolo Auto ont fait l'essai du Audi Q4, qui est en fait qui s'est fait attendre. Hein. Le Q4, là, il me semble que ça fait trois ans qu'on parle de ça, puis il arrive pas, il arrive pas. Là, il est arrivé. D'ailleurs, faudrait que j'appelle Blasseyer. J'ai pas placé d'appel à Audi encore. Je vais faire ça. Mais l'essai s'est déroulé il y a quelques semaines. Et c'est notre collègue Vincent Aubé qui l'a essayé dans la semaine où il a fait moins 40 degrés. Là, tu sais, les deux, trois jours où on s'est gelé solide, là.
Bon, ben, Vincent. Tu parles de l'hiver qu'on a eu à date cet hiver?
Ouais, c'est ça. Les trois vrais jours d'hiver qu'on a eu, là. Bon, ben, Vincent l'avait cette semaine-là. Puis il dit que dans son article que l'autonomie a chuté à 210 km au lieu des 260 km habituels l'hiver. Parce que c'est évidemment des 200, c'est 260 km d'hiver parce que le Q4 est à 365, je pense, l'été ou quelque chose comme ça. Il a beaucoup aimé, Vincent, le système d'infodivertissement. Les places arrière sont un peu petites parce que, évidemment, c'est pas gros un Q4. Ben, tu sais, le nom le dit, là, c'est entre le Q3 et le Q5, là, mesuré, puis vous allez voir. Et globalement, ben, la chronique se demande si le prix est pas un peu exagéré parce qu'on est quand même dans les 60 et quelques mille dollars. Je pense que le prix de base est à 59 990, mais il n'y a aucun concessionnaire qui en a un à ce prix-là. Alors, je vous invite à aller faire un tour, ecoloauto.com. La chronique de Vincent est là et vous pourrez aller le lire. De ton côté, voilà. Parle-moi donc de ton véhicule cette semaine, mon cher Alain. Tu as roulé en Jaguar.
Ben, parlant de véhicule hors de prix, ou en tout cas peut-être un peu trop cher, j'avais un F-Pace SVR. C'est un VUS intermédiaire qui a plusieurs prétentions, mais qui en a une surtout qui est assez particulière. Son V8 est déjà périmé. Je ne sais pas à quel point c'est une bonne nouvelle ou une nouvelle nostalgique. Mais bon, écoute,
le 2 il est peut-être turbo, primé, là, mais ça ne le rend pas plus fiable.
Il y a un petit peu de ça. Et puis, peu importe, même si on regarde pour les versions de base du FPS, il y a un 2 litres turbo de base. Là, puis même lui, il n'a pas beaucoup plus d'avenir parce que Jaguar, ça a déjà été annoncé, va cesser de produire des véhicules à essence au plus tard à la fin 2025. Ouais. Ça, c'est dans 2 ans. Ça
c'est dans 2 ans. La seule chose qui m'inquiète, Alain, c'est qu'on ne voit pas grand-chose arriver. Il devait
on
y avoir...
On ne sait pas ce qui s'en vient
aussi. Ben non, ben regarde, quand le XJ est parti du marché en modèle à essence, on a dit 2021, il y a un électrique. On est rendu en 23, on ne l'a jamais vu. Le XF est parti, on n'a pas vu d'électrique. Tu sais, pour le moment, il y a toujours et encore le I-Pace. Mais c'est tout, là. Il n'y a rien d'autre. Tu peux pas, tu sais, puis surtout que le I-Pace, on s'entend. C'est pas un mauvais véhicule, mais une compagnie ne peut pas jouer son avenir sur un modèle, là.
Sur un seul modèle qui commence à avoir un peu d'âge aussi.
Ben, qui a pas, tu sais, qui est à le fun quand il est sorti, il y a 4 ans, mais il s'en est passé des choses. Il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts depuis 4 ans, là.
Tu soulèves un bon point. Je ne sais pas si Jaguar va devenir une des premières marques qui pourrait ne pas respecter son engagement d'électrification. Parce qu'on ne sait pas, hein, mais toutes les promesses qui ont été faites sont assez intenses, là, d'ici 2030 environ.
Ben c'est ça, puis on soupçonne pas toujours les montants d'argent impliqués pour en arriver à là, en arriver à ça là. Puis Jaguar, c'est bon, c'est Tata qui est le pourvoyeur de fonds, là. Mais Tata n'a pas une poche profonde à l'infini là. Un jour, lui va dire, ouais, sais-tu là, regarde, on va t'en faire deux là, puis on va regarder si ça se vend. Tu sais, même Monsieur Fat de Vinfast a mis les freins il y a quelques semaines. Là, ils ont livré les 45 premiers véhicules Vinfast aux États-Unis hier. Mais lui a dit non. Là. Pour le moment, on va s'en tenir à ce qu'on voulait faire parce que c'est un puits sans fond. Là. Puis les compagnies qui ne sont pas très rentables, à un moment donné, là, ils vont arriver au bout du rouleau puis ils vont dire ben là, n'est plus d'argent là. C'est aussi simple que ça. Puis on s'entend que Jaguar n'est pas un vendeur de dizaines de millions de véhicules par année là.
C'est pas un vendeur de volume non plus effectivement.
Non, c'est ça. Là, c'est d'autant plus délicat là, surtout qu'on dépend d'un tierce fournisseur qui est Tata là. Tu sais, c'est Tata lui, oui, il a de l'argent, il est dans l'acier, il est dans toutes sortes de choses. Mais tu sais, c'est un jour il dit, ouais, sais-tu, moi finalement un char là, c'est plus rentable ça. Puis arrangez-vous.
Bonne chance, Jaguar.
Ben, c'est ça.
Écoute, alors, on va savoir tout ça manifestement le 1er janvier 2026, parce que c'est là où ça va être 100% électrifié.
Exact.
C'est sûr que si la marque continue à exister, ce qui va continuer à exister aussi, c'est des VUS de 500 chevaux ou plus, parce qu'on s'entend que le surenchère de chevaux dans l'électrique continue d'avoir lieu.
Right.
La seule différence, c'est qu'il ne consommera plus d'essence. C'est une bonne affaire, parce que le FPS SVR, là, dans mon cas...
Oh, ça consomme l'essence, ça, monsieur.
Un petit peu plus que 15 litres au 100 km. Et là, il y avait beaucoup d'autoroutes. Donc, c'est un peu.
Oh, oui, oui. Puis, 15 litres au 100, t'as pas poussé fort, là. 15 litres au 100, là, c'est tranquille.
Exactement.
Oui, oui, oui. Parce que si tu fais de la ville, tu places quelques bonnes accélérations, puis que t'embarques un peu de monde, là, t'arrives à 18, 17, 18. Ça grimpe assez vite. Oui. Au prix de l'essence, là, en ce moment, ça donne un coup, là.
Ça paraît. Exactement. Prix de l'essence et prix aussi du véhicule. Hein. Prix de détail qui démarre à 96 000 $ avant taxes, préparation et nombreuses options. Parce que ça monte facilement haut des 100 000 $. Bon, évidemment, on l'a dit, hein, ça donne droit à une cylindrée assez fameuse, en fait, parce qu'elle vient de chez Ford. Là, un 5 litres à compresseur qui ne manque pas de puissance. Il y a aussi à l'intérieur pas mal de beaux petits gadgets, là, parce que le véhicule a été revu, rafraîchi en 2021. Clairement, ce véhicule est prêt pour CarPlay 3.0 et la fameuse personnalisation de tous les écrans, là, tous les cadrans même. Il est déjà compatible avec les versions sans fil de CarPlay d'Android Auto. D'ailleurs, je veux dire ceci à l'avantage de Jaguar, c'est que le groupe anglo-indien, si on peut dire comme ça, réussi à ne pas trop exagérer côté commande tactile, hein, et puis c'est effectivement une bonne affaire. Là, l'interface est assez bien conçue quand même en général. Il y a une molette pour le volume et des touches pour contrôler la sono et l'affichage sur le volant. Il y a à peu près le même genre de configuration de touches et de contrôle sur le bout de l'appui-coude central. C'est assez bien conçu de ce côté-là. Ça fait une belle expérience, en tout cas très enveloppant. Ça permet aussi de se concentrer sur la conduite, ce qui, on s'entend, est la principale chose à faire avec le F-Pace, SVR, même si on parle de VUS et non d'une voiture sportive. Ces différents modes de conduite là, aident à donner beaucoup de caractère au véhicule. Pour les gens qui ont les gens qui sont tout le temps pressés, il y a un mode dynamique avec une fonction dynamique launch, donc lancement dynamique, qui optimise le décollage au point mort et qui permet de boucler le fameux 0-100 km/h en 4 secondes.
Oui, oui,
ce qui, pour un VUS, est quand même pas rien.
Ah non, c'est même, écoute, je trouve toujours que c'est un contre-emploi, moi, quand je vois des véhicules comme ça,
absolument,
avec des compétences du genre. Tu sais, j'ai toujours à la blague, c'est comme prendre un lutteur de sumo et dire, toi, là, tu vas devenir un coureur de 100 mètres. Non, regarde, ça. Là. Cibole, c'est un lutteur de sumo, là. Arrête, là, ce gars-là. Mais, on arrive. Le problème qui demeure impossible à contourner, c'est les lois de la physique et de la gravité. Parce que t'as un centre de gravité qui est beaucoup plus haut dans un VUS. T'as un poids qui est significatif parce que veut pas, c'est les plus gros véhicules. Fait qu'on travaille très fort pour donner un peu d'allégresse à ces véhicules-là. Mais tu sais, tu pars avec un poids qui est beaucoup trop lourd, un centre de gravité beaucoup trop élevé. T'arrives à le faire, mais moi, je me sens toujours mal à l'aise quand je fais ça avec ces véhicules-là en me disant, Seigneur, c'est pas fait pour ça, là, tu sais. C'est.
Non, puis, évidemment, ça passe en conséquence dans l'habitacle aussi.
Ben oui, c'est sûr.
Heureusement, dans le cas du FPS, au moins, il y a des bons freins. Ça mord sans problème parce que ça, c'est l'autre partie de l'affaire. C'est facile d'accélérer. Encore faut-il le ralentir quand on a besoin.
Oui.
Je veux dire ceci avec le comportement. Il y a une belle direction. J'ai beaucoup aimé le comportement de la direction, du volant, tout ça. La boîte de transmission a 8 rapports. Bon, écoute, elle pourrait être plus nerveuse, mais évidemment, tu le dis, c'est un VUS, c'est pas une voiture de course. Donc, on s'attend pas non plus à des miracles. Je l'ai trouvé assez douce. En fait, je trouvais que le comportement, quand on veut pas justement trop exagérer, était assez sophistiqué. Évidemment, il reste à espérer que le véhicule peut tenir en un seul morceau là, assez longtemps pour en profiter comme du monde. Tu l'as dit, on connaît la réputation de la marque anglaise par rapport à la fiabilité de ses produits. Et je veux dire ceci, même au-delà de la fiabilité, là, un VUS sportif comme celui-là, qui est équipé de pneus sur des jambes de 21 pouces, de pneus à profil très étroit. Là. Il y a pas beaucoup de. Les flancs sont pas très, très grands. Et quand on connaît l'état des routes au Québec, surtout ces jours-ci avec les nids de poules et tout le reste, on court un peu après le trouble. Je l'ai vécu d'ailleurs, j'ai frappé un nid de poule de trop la semaine dernière quand je l'ai essayé. Et effectivement, parce que si je veux pas, les pneus doivent absorber des chocs qui sont vraiment intenses. Et ça a créé une crevaison.
C'est fait pour les belles routes. C'est fait pour aller vite.
Exactement.
Mais on ne peut pas aller vite.
C'est ça. Puis on veut sauver de l'espace et de l'argent. Donc, on fait des véhicules comme ça, sans pneus de secours, avec des flancs, des pneus, des fameux rounds flats, avec des flancs plus rigides pour pouvoir se rendre. Et c'est pas très, très commode parce que quand on a une crevaison, on ne peut pas changer le pneu et poursuivre. Il faut aller moins vite à la première place où on peut s'arrêter puis attendre les services.
Exact.
Parce que c'est pas idéal. Surtout qu'on a un véhicule qu'on a payé assez cher et pour lequel on aimerait avoir une très grande fiabilité.
Oui, c'est malheureusement pas une équation qui est toujours la bonne, effectivement.
Exactement.
Donc, tu n'iras pas t'acheter un Jaguar la semaine prochaine, mon cher Alain.
Il y a quelque chose à dire, puis je pense que tu es d'accord avec moi sur l'expérience d'un moteur V8, d'une voiture, d'un véhicule d'un moteur V8, parce qu'il y a
ça, c'est le fun, mais c'est le fun pendant une heure. T'sais, après ça, là, au quotidien, je suis pas sûr. Là. Je n'aurais pas ce genre de véhicule-là au quotidien. C'est drôle, mais t'sais, payer le prix que ça vaut pour le posséder, faut être très motivé. Ah, écoute, il me reste une minute pour parler, moi, faire ça vite, mon EV6. En fait, le EV6 est un EV6 GT. C'est quoi la différence? Ça a l'air en tout point d'un EV6, mais il y a 576 chevaux. Et le prix, évidemment, est à l'avenant. Là, on parle de 76 500 $ pour le modèle. Oui, c'est extrêmement puissant. Mais la question que je me pose toujours, c'est pourquoi on va acheter un véhicule électrique extrêmement puissant? Parce qu'on s'ennuie de la
Kia
puissance.
À 76 000 $.
Ben, ou pourquoi acheter un Kia à 75 000? C'est ça, c'est le problème. Tu sais, j'ai beaucoup aimé le côté performant. Mais en même temps, je me dis, c'est pas ce genre de véhicule-là que j'achèterais si je voulais un véhicule performant. Et bon, évidemment, on roulait l'hiver et j'ai fait en tout et partout un 321 km d'autonomie. C'est ce qu'on affichait, je ne l'ai pas vidé, qui est correct, mais je m'attendais un peu mieux parce que c'était pas une semaine extrêmement froide. C'était une semaine, je dirais, là, de hivernale douce. C'est en tout point semblable.
Dans ce véhicule-là aussi.
Oui. C'est un véhicule en tout point semblable au EV6. Alors, pour le sport, je le mettrais peut-être un petit peu différent. Alors, j'ai pas le temps d'en dire plus. Mm-hmm. On en reparlera peut-être à un moment donné. C'est déjà le temps de la fin de l'émission. Merci à Jean-Christophe Ouellet à la console. Merci Alain d'avoir été là. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, soyez prudents. Salut.
C'est 23.